Alors, je suis partie de la citation de Lacan que vous avez pu lire dans l'annonce, n'est-ce pas ? Oui, je dis je suis partie de la citation de Lacan que vous avez pu lire. Je ne l'ai citée qu'en partie. Et en fait, mon but est surtout d'expliquer une partie que je n'ai pas citée. Mais je vais y venir. Alors, avec cette question, qu'est-ce qu'un analysant ? Nous nous interrogeons sur celui qui est supposé être entré dans le discours analytique après avoir frappé à la porte de l'analyste. Notez que les psychothérapeutes ne se demandent jamais qu'est-ce qu'un psychothérapeutisant. Ils le savent, c'est celui qui vient leur parler et ça suffit. Seuls ceux qui sont déjà dans la psychanalyse s'interrogent. D'abord les analystes, quand ils veulent soupeser les limites que rencontre leur pratique, et que pour cela ils interrogent la responsabilité de celui qui arrive. Et puis aussi les analysants se le demandent parfois, est-ce que ce que je fais est une analyse ? On entend ça souvent. Alors, donc, ce qui est en question en réalité, c'est le discours analytique. Sidi l'a indiqué, j'avais pensé sauter certaines parties que j'ai écrites, parce que j'ai l'impression que c'est un peu long, mais je vais quand même le dire parce que ça fait écho un peu à ce que tu as dit. Pourquoi Lacan est-il venu à préciser que l'analysant, c'est celui qui fait le travail ? Est-ce que ce n'est pas évident ? Eh bien, c'est que dans cette conférence de Genève, il parle non à ceux qu'il appelait ses élèves, mais à l'IPA, où on dit tout autre chose. Il est vrai qu'il parle en Suisse, un pays qui ne prend pas part aux guerres, mais quand même, sur un ton pacifique, la polémique est là, dans la phrase citée, discrète, en sourdine, elle est là. Lacan se réfère clairement au couple du discours analytique, analysant-analyste, puisque le paragraphe que j'ai cité est suivi de remarques, d'une remarque centrale, il dit « Et qu'est-ce que vous y faites là, vous ?» Les analystes. Et en fait, il vise une série de thèses de l'IPA concernant l'analyste. Il y en a beaucoup. Je dis notamment la thèse du contre-transfert de l'analyste, répondant en miroir au transfert. La thèse disant que l'analyse analyse avec son inconscient, c'est-à-dire avec ses signifiants, son fantasme et son symptôme. Et aussi que sa pensée flottante, son écoute flottante, répond à l'association libre dans une pratique de co-pensée. Là, vous reconnaissez Vildoché. Bon. Autant de notions qui postulent qu'il y a deux travailleurs dans une analyse et pas un seul. À toutes ces constructions en miroir, Lacan a opposé la notion de disparité subjective entre l'analyste et l'analysant. Ça devrait plaire à Francis Pache. Disparité qui vaut d'ailleurs pour tous les discours. Bon. Alors, donc, l'un travaille et l'autre non. On sait qu'à la fin, il faudra que le travailleur arrête de travailler. Ce sera un autre changement. La différence entre la question d'entrée et de fin est marquée chez Lacan par un terme précis que nous aimons beaucoup, c'est le terme de passe. Il ne s'applique qu'à la fin. Lacan a situé un changement d'entrée, mais il n'a pas dit passe à l'analysant. Pourquoi ? Pour une très bonne raison, parce que le sujet qui parle hors analyse ou avant analyse et celui qui parle en tant qu'analysant reste sur la même voie, VOIE. C'est celle au fond de la chaîne signifiante. Freud disait celle des pensées, nous disons celle des signifiants. Au contraire, la voie de l'analyste en entendez dans son acte, hein, pas dans sa personne, c'est la sortie de cette voix. Et Lacan a bien marqué qu'elle est hétérogène à celle de l'analysant. Il dit « on peut les faire alterner, la voix analyste et la voix analysant, comme une porte bas, mais elle s'exclut ». À l'analysant donc, le travail de la pensée, des signifiants ou de la langue si on veut, mais dans tous les cas, à l'analyste, la non-pensée, propre à ce que Lacan a nommé l'acte. Et en effet, qui oserait dire que l'attention flottante, promue par Freud, ou le silence bien connu des analystes, et même l'interprétation, soit un travail ? Personne. À la rigueur, une discipline, mais pas un travail. Alors, à tout travail, on peut demander comment il commence et ce qu'il produit comme résultat. L'analysant, il peut donc être questionné de deux points de vue. Vue de l'entrée et vue de la sortie. Aujourd'hui, je le prends vue de l'entrée. Entrer dans une analyse, c'est donc entrer dans un travail, c'est la thèse. Là, comment ne pas se tourner vers les connotations du mot « travail » ? Le terme connote plus que l'idée banale de l'effort, de la dépense d'énergie, qui appellerait des vacances pour se reposer. Bon, je fais court sur le travail, les dictionnaires sont prolixes sur le travail. Travail, ça commence à la malédiction portée à l'origine au jardin d'Éden, n'est-ce pas ? Pas étonnant que le premier sens du mot, le premier sens désigne l'état de celui qui souffre. Ce que l'on trouve d'ailleurs très clairement, le paradigme, c'est la femme en travail dans l'accouchement. Bon. Il y a même un lien entre travail et torture. Lacan l'a évoqué, le tripalium, instrument de torture. À partir du XVe siècle, le travail désigne les activités productrices qui se jugent donc au produit. Dans la multiplicité des significations du travail, je ne peux pas omettre le travailler du chapeau, que l'on reproche si souvent à ceux qui consultent. Bon, Joyce lui disait « araignée au plafond », c'est la même chose. Le travail en question, il est sûr qu'il se déploie dans le champ de la parole. Un travail dans le champ de la parole. Mais en général, parler n'est pas conçu comme un travail. Alors, le pas d'entrée dans le travail, c'est forcément un changement dans la parole. Et au fond, ça consiste à faire de la parole un instrument, non pas d'expression, mais de production. Ça suppose de passer de la souffrance aux mots qui représentent le sujet. C'est autre chose que de se plaindre ou même de témoigner. Cet instrument n'est pas un tripalium, hein. Quoi qu'il ait une triplicité, bien sûr, il mobilise les trois consistances que Freud a que Lacan a distinguées. Ce n'est pas un tripalium, mais quand même, hein. À l'horizon, quand même, à l'horizon du roman déjà triste du névrosé, le travail le finira par le soumettre à une sorte de torture spéciale, celle du midir de la vérité, ce qui veut dire roman toujours inachevé, et celle du hors-sens des signifiants réels de l'inconscient. Alors il y a une question. On a l'habitude avec Lacan de demander qu'est-ce qui pousse à être analyste ? Mais pourquoi ne demande-t-on pas qu'est-ce qui pousse un sujet à se soumettre à cette torture, alors que personne ne l'y oblige ? On ne se le demande pas parce qu'on le sait. Qu'est-ce qui l'y pousse ? C'est un espoir qui le pousse, évidemment. Un espoir, l'espoir d'un innocent, l'innocent c'est celui qui ne sait pas. L'espoir de celui qui ne sait pas, et comme dit Lacan, rien n'arrête l'innocent. Ce qui veut dire qu'on entre par l'illusion, toujours. On retrouve de cela chez Freud, et bon, on pourrait développer beaucoup. Alors, pour l'analyste, il y a question, parce que lui n'est plus un innocent. Bon. Alors, quel est cet espoir qui, d'un sujet qui venait simplement parler de ce qui lui arrivait et qui lui faisait peur, et nul ne postule que c'est un travail de parler, quel est cet espoir qui fait de lui un analysant qui, en parlant, travaille ? Travaille à produire ce qu'on appelle le matériel. La thèse de Lacan se trouve dans la citation que j'ai donnée. Qu'est-ce qui le pousse et qu'est-ce qui fait qu'on va l'accepter ? Lacan dit « il faut qu'il demande vraiment ». Un peu plus bas, il dit « il faut une vraie demande ». Mais qu'est-ce que c'est que ça, une vraie demande ? Il y a donc des fausses, s'il y a des vraies. Et évidemment, ça doit se juger avant l'analyse, dans les entretiens qui précèdent, qui doivent précéder, selon Lacan, dans les entretiens préliminaires. Il faut juger si c'est une vraie demande. Et Lacan d'insister pour dire qu'il faut qu'ils soient nombreux, les entretiens, pas un ou deux. Si c'est un ou deux, c'est râpé. Ça, c'est très étonnant, c'est ce que je veux m'expliquer. C'est un des rares préceptes techniques précis de Lacan et très différent de l'idée de Freud d'un bout à l'essai. Pour Lacan, pas d'essai. Pas d'essai, c'est quelque chose qui précède, qui est avant. Alors pourquoi ? Vraie demande. Et on a une difficulté avec la notion de demande, et pas seulement pour la demande d'analyse d'ailleurs. Il y a deux niveaux de la demande, tout le monde sait, tous les lecteurs de Lacan le savent, le niveau intransitif et le niveau transitif. Niveau transitif, demande de quelque chose, niveau intransitif, demande de rien. Bon. C'est une distinction que Lacan a introduite très tôt et qu'il a repris plus tard en distinguant les dits de la demande et le dire de la demande. La demande transitive est une demande énonçable. De guérir de sa souffrance, d'être entendu, d'être plus performant sexuellement, professionnellement, littérairement, que sais-je, et même de devenir analyste. Aucun de ces dits de demande n'est déterminant pour une entrée en analyse, on le sait, il y a un accord là-dessus. Au mieux, ces dites demandes permettent de saisir déjà sous quel signifiant le sujet s'avance. Et puis la demande intransitive, elle ne demande rien en quelque sorte. Qu'est-ce qu'elle ? Seulement la présence. Demande de présence, dit Lacan. Ça ne fait quand même pas deux demandes. Il y a une seule demande. Il y a la demande dans laquelle l'édit de demande véhicule la demande. Ces deux niveaux, donc, ne sont qu'un seul. La demande intransitive est portée par les demandes énoncées, sauf dans certains silences où la demande intransitive se manifeste à l'état pur, comme appel silencieux à la présence de l'autre. Je note ici par parenthèse que ce qui s'interprète selon Lacan, c'est cette demande-là. La demande intransitive, cette thèse chez Lacan va de la direction de la cure jusqu'à la postface du séminaire 11 où elle est très explicite. C'est donc la demande intransitive qui ne demande rien sauf l'autre, majuscule, sa présence et qui institue le transfert qui sera interprété. Bien, sauf que cette demande-là, elle n'a pas attendu l'analyse pour chaque sujet. Elle est là depuis le début de la vie. Demander, le sujet n'a jamais fait que ça, dit Lacan. Sauf qu'à l'origine, c'est le parent traumatique seul qui a répondu. Parent traumatique, vous reconnaissez l'expression de Lacan dans son séminaire à Sainte-Anne, le savoir du psychanalyste. Il recommence donc le sujet, inlassablement, répétition. Alors pourquoi serait-ce une vraie demande d'analyse, cette demande intransitive qui nous arrive, plutôt que la vieille demande, celle que la répétition proroge et qui conduit à la névrose? Ça, c'est un problème crucial pour la psychanalyse. Est-ce que ça pourrait dépendre de l'autre à qui ça s'adresse? L'autre, celui dont Lacan dira justement qu'il a chance de répondre, là où le parent traumatique n'a pas répondu. Dans la structure de langage du transfert, celle dont Lacan nous donne le mathème, cet autre à qui s'adresse cette demande, et il est écrit SQ, le signifiant second, vers lequel le signifiant du sujet, quel qu'il soit, se dirige. Pas besoin qu'on le sache pour qu'il en soit ainsi. Ça, c'est dans la structure de langage du transfert, pardon. Mais dans la structure de la parole transférentielle et de sa boucle rétroactive, qui n'est pas la même structure, cet autre est ce que Lacan a appelé dès le début le maître de la vérité. Celui dont dépend ce qui aura été entendu ou pas. Celui qui a le tout pouvoir de la réponse. Et que pour cela même, on prend pour un sujet supposé savoir, alors même qu'il ne sait rien. Alors que va-t-il faire du tout pouvoir de la réponse que la structure de la parole lui confère? De là, du fait que la ligne que Lacan écrit dans le mathème du transfert écrit à la fois la structure de langage et l'adresse de la parole, on pourrait conclure que la vraie demande est celle qui rencontre un analyste qui est vraiment analyste. Autrement dit, qu'elle dépendrait de la réponse, déjà. Un qui répond et qui, de sa réponse, produirait une signification nouvelle, celle du sujet supposé savoir. On peut écrire ça sur le mathème du transfert, si vous voulez. On peut le faire tout à l'heure. Dans nos réunions précédentes, je crois que Sol Aparicio et Bernard Nominé ont tous deux exploré ce fil. Lacan avait d'ailleurs dit « Une analyse, c'est la cure que l'on attend d'un psychanalyste ». C'était pas seulement ironique, ça l'était, mais pas seulement. Hein. Mais je note qu'en 1975, quant à lui, Lacan, il reste sur ce point dans une grande prudence. Puisqu'après avoir affirmé qu'il faut une vraie demande, il dit « Et qu'est-ce que vous faites là, vous, analyste ?» Et il souligne que ça a été et que c'est sa question de toujours. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, l'analyste ? Ben d'abord, on le sait, il s'abstient. Neutralité bienveillante, dit Freud, ce qui indique simplement que l'analyste, au fond, il ne demande pas. Il n'a pas de demande à l'endroit de son analysant au départ. Et pas même qu'il fasse une analyse. En principe, hein. C'est l'analyste idéal dont on parle ici. Hein. Il n'a pas de demande à l'endroit de son analysant, pas même qu'il fasse une analyse. Et Lacan dit « je n'y encourage personne ». Et il ne fait aucune hypothèse non plus sur ce qui est bon pour son analysant. Laissons cela au psychothérapeute. Alors, une fois soulignée cette dimension de réserve, cet évitement des normes du supposé thérapeutique, on peut dire à juste titre, pas d'analyse sans le suspens des réponses communes. Une fois tout cela dit, on n'a encore rien dit d'un éventuel pouvoir causal de l'acte de l'analyste quant à la production d'une vraie demande. Eh bien, selon moi, en matière de production d'analysants, ce serait se pousser du col que d'aller plus loin. L'analyste est une condition nécessaire, mais pas suffisante. C'est même ce dont les analystes se plaignent, hein, d'arriver de moins en moins à produire l'analysant, parce qu'ils croient qu'ils le produisent, sans doute. Une analyse n'est pas sans l'analyste, mais elle l'est par la grâce, non de l'analyste, mais de l'analysant. Concrètement, ça veut dire quelque chose de très concret, l'analyste, par ses réponses, il a le pouvoir de faire barrage à une demande, même si elle est vraie. Mais il n'a pas le pouvoir de la produire, car les conditions de cette demande sont du côté du travailleur potentiel, selon moi. Donc, je fais retour à la vraie demande. À quoi ça se juge ? Il faut bien qu'on puisse l'évaluer si on en fait la condition pour allonger le patient et l'engager dans une analyse. Dans la vie, on sait assez bien distinguer les fausses demandes, je crois, hein, en général. Dans la vie, on sait bien distinguer les fausses demandes, celles qui sont faites pour entretenir le dialogue, pour montrer qu'on s'intéresse, pour séduire, enfin tout ce qu'on veut. Mais on sait bien aussi qu'il suffit d'essayer de répondre à une demande pour s'apercevoir qu'elle était que du semblant. Et que, au fond, elle ne portait aucun désir effectif. Alors, pour distinguer la vraie demande dont parle Lacan, on pourrait utiliser sa construction à Lacan, construction classique, à savoir que pas de demande qui ne porte un désir. Et entre demande et désir, il y a une grosse différence concrète. La demande, ça va vers des objets ou vers la présence. Le désir, il est poussé et on ne sait pas où il va. C'est même toujours le problème qu'il trouve son objet. Alors, il y a là deux expressions de Lacan qui me plaisent, qui m'intéressent, parce qu'elles tirent les conséquences. Il dit, eh bien, il faut que quelque chose pousse. Ça n'a pas l'air d'être de haute volée théorique, hein, cette formule. Que quelque chose pousse. On ne dirait pas ça de la demande. Dans le cas de la demande, quelque chose attire. C'est complètement différent. Pour le désir, quelque chose pousse, mais vers quoi ? Lacan dit aussi qu'il n'encourage personne dont le désir ne soit décidé. Mais là encore, décidé à quoi ? Ben, y a une seule réponse possible, à faire une psychanalyse. La vraie demande serait donc celle qui atteste d'un désir de psychanalyse et décidé. Avec ça, on a fait un pas pour définir la vraie demande, peut-être, mais on a fait un pas vers plus d'embarras pour les analystes qui se demandent si la personne qui a frappé peut être analysante. Embarras d'abord en raison du rapport du désir à son objet. Comment désirer ce dont on ignore tout ? Ici, la psychanalyse, prise comme objet. Certains parmi nous se demandent parfois, je l'ai entendu, si on peut faire une psychanalyse sans rien savoir des textes analytiques. Mauvais signe que cette question, selon moi. Parce que tout ce que l'on peut savoir de la psychanalyse, hors de la cure, ça peut être utile pour d'autres choses, hein, par les livres, l'université, les collèges, les exposés, tout cela a le statut de savoir à la place du semblant, lequel suppose le nom propre de l'auteur comme le signifiant maître. Ça n'aide pas la psychanalyse, ça n'aide pas une psychanalyse, je veux dire. Heureusement, on constate souvent qu'il suffit de quelques entretiens chez le psychanalyste, et même pour les plus instruits des textes, pour balayer ses semblants et rendre son mystère à l'expérience, tellement ce qui s'expérimente est toujours autre chose. Finalement, le seul savoir requis pour soutenir un désir de psychanalyse, c'est le savoir connoté par le mot psychanalyse, produit par Freud. Or, qu'annonce-t-il ce mot ? Rien de plus, le mot psychanalyse, rien de plus que la levée d'une ignorance. Il promet donc une découverte de ce que Freud nommait l'inconscient, mais peu importe, une découverte, une révélation. Tel est l'espoir de l'innocent dont je parlais. Quand il a le désir de psychanalyse, il attend une révélation. On entre dans le travail par l'espoir de la découverte de la cause de ses souffrances, disons, autrement dit, la découverte de ce que l'on ne sait pas de soi, mais que l'on suppose cependant, car le mot psychanalyse le fait supposer. Le mot psychanalyse nous assurant que ce que l'on ne sait pas est quelque part. Sur une autre scène, disait Freud, Lacan a d'abord dit dans l'autre, puis dans les signifiants de l'inconscient la langue. Au début, elle transfère, et il faut ajouter le transfert à la psychanalyse par la grâce de Freud. Avec ça, l'analyste qui se demande au quotidien si celui qui arrive peut être analysant est-il tiré d'embarras ? Eh bien non, car ça ne lui donne pas d'index clinique du désir décidé de psychanalyse. Et pour une raison de structure, c'est que par définition, le désir est incompatible avec la parole. Aucune déclaration n'en témoigne. C'est pour ça que, quand on entend parler quelquefois « mon désir de psychanalyse »,« mon désir d'analyse », bon, ça fait sourire. Hein. Alors, comment le tester ? Comment tester ce désir peut-être décidé qui soutient l'espoir de celui qui a frappé à la porte ? La seule chose certaine, c'est que ce désir ne peut prospérer qu'à partir d'une ignorance, à partir de ce que le sujet sait ne pas savoir de lui-même. Alors, la visée des entretiens préliminaires, ce n'est pas tant de savoir si le sujet souffre, quoique prendre une idée de son symptôme n'est pas inutile, c'est de s'assurer et même pour la plupart des cas, de faire émerger sous la demande l'ignorance où il est de lui-même. À cet égard, l'intervention de Freud à propos de Dora, que Lacan a qualifié de rectification subjective, est exemplaire. Vous vous souvenez, Dora qui vient dénoncer l'intrigue dont elle pense être victime. Et Freud lui fait apparaître que son comportement dans l'intrigue est une énigme pour elle-même. Au moins une question. Assurer donc l'émergence d'une conscience de non-savoir, on est sûr que c'est la condition d'un désir de savoir, mais d'un désir qui reste seulement possible. C'est, je crois, d'ailleurs, le sens de la remarque de Lacan quand il dit qu'une formation symptomatique de l'inconscient démontre le rapport au sujet supposé savoir. Hein, ça a été évoqué, c'est à la fin de Télévision. Il dit « Une formation symptomatique de l'inconscient suffit à démontrer le rapport au sujet supposé savoir qu'elle transfère. » En effet, un rêve, un acte manqué, un lapsus souligné, voire un mot du sujet qui ne soit pas du lexique commun, quand ils sont apportés à l'analyste, sont apportés comme autant d'énigmes adressées qu'on offre à l'interprétation. Donc ça signe quelque chose. Néanmoins, cette nécessité de non-savoir à mobiliser pour une entrée en analyse, dans le travail analysant, n'explique pas encore, c'est finalement là-dessus que je me suis vraiment interrogée, le nombre des entretiens préliminaires que Lacan prescrit. Pas un, pas deux, beaucoup plus. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce qui justifie ce nombre ? Et qu'est-ce qui peut justifier ? Je cherche à comprendre. Et la durée longue qui va avec ? Eh bien, je ne vois qu'une réponse. Puisque le désir qui anime un sujet ne peut pas s'évaluer par les énoncés, que d'autre part, le non-savoir du sujet, même lorsqu'il est avéré, présent, n'est qu'une condition nécessaire, pas suffisante. Alors, il ne reste que l'insistance, la constance de la poussée, puisque c'est le terme que Lacan a employé, il faut que ça pousse, la constance de la poussée pour assurer de la détermination de ce désir. Il faut donc que l'analyste tienne en réserve son consentement à la demande d'analyse pendant un certain temps pour que cette insistance se fasse présente. Quand il y a demande d'analyse, bien sûr, quand elle n'y en a pas, la question de son émergence, la faire émerger, est un préalable. Alors, c'est là que souvent les analystes reculent, je crois. Retenir l'accord. Ils reculent parce que, je pense, ils reculent sur ce point, au suspens de la réponse. Ils reculent à ce joint qui fait partie du tout-pouvoir de la réponse. Parce que cette réserve de l'accord génère l'angoisse chez celui qui demande et peut même à l'occasion générer son départ. Bien sûr, l'angoisse est toujours à ménager et on sait que le sujet ne la supporte que si elle est le prix à payer pour un désir. Bon. Alors, c'est justement ce que l'on cherche à savoir. S'il est prêt à payer ce prix-là. L'attente du feu vert, dont Lacan nous dit qu'il faut le refuser assez longtemps, fonctionne, je crois, comme un test de la détermination du sujet. La seule possible, en fait. Elle a encore une autre vertu, d'ailleurs. Cette attente, c'est que elle met en question ce que le sujet articule. Et donc, elle est propice à lui indiquer qu'il y a parole et parole. Et que l'on attend, au fond, une parole en rupture avec les finalités et les censures communes. C'est ce que comportait d'ailleurs la notion d'association libre freudienne. Hein, une parole dans laquelle le sujet, pour le dire sans paradoxe, travaille à s'absenter, à lâcher prise, assez pour laisser apparaître quoi donc ? Eh bien, ce qui le travaille, le vrai travailleur, soit l'inconscient, jamais en grève. Alors, ce seuil franchi, il y a analysant. Restera, le moment venu, je termine, à questionner le produit du travail, à interroger l'analysant vu de la fin. À évaluer donc les conséquences de ce qu'il aura produit de sens, de signifiant et de dire. Et ça, ce sera une autre question. Ce sera l'analysant vu de la fin. Et là, j'ai parlé de l'analysant vu de l'entrée. Voilà.